Tous les gens qui connaissent bien votre œuvre disent c'est un peintre formidable.
Ça, c'est leur problème de dire que je suis pas un bon dessinateur.
Non, mais c'est peut-être vrai, je sais pas, vous êtes un bon peintre ou pas.
La différence entre la peinture et le dessin, ça paraît tellement évident. Mais si on commence à chercher un peu, qu'est-ce que c'est la différence entre un dessin et une peinture?
Le rire de Topor est une question d'esthétique ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de Victor Hugo, de Claude Simon, d'autobiographie, de psychanalyse, d'arbres, de dessins sur le motif et même de Bucarest. Avec Frédéric Pajac qui fête le 10e numéro de sa revue et collection Cahiers dessinés, dans un accrochage choral à la Halle Saint-Pierre à Paris, de Victor Hugo à Sampé en passant par Kiki Smith. Manu Farine.
Le dessin dans tous ses états pour un état des lieux de ce que Frédéric Pajac désigne comme étant l'un de nos premiers langages.
À 19h30, la chronique revue et corrigée de Thomas Clair. Ce soir, Thomas, à votre programme.
Au Criticat.
19h35, plateau esthétique, avec Laurent Génie qui signe le lieu et le moment. Un recueil de textes pour une autobiographie fragmentée sans légende ni récit du moi, Lucille Como.
Portrait d'un écrivain qui fait de l'expérience esthétique, quelle qu'elle soit, une expérience existentielle et du style un geste essentiel au-delà de l'art.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfès que l'on ouvre bien sûr avec le son du jour.
J'ai entreposé dans mon petit bureau que j'avais dans le garage. D'être accusé de vol, ça me gêne. Ça m'angoisse même.
Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
Il y a quelques jours, oui, pas tout à fait du jour, mais presque, et cette voix fragile qu'on entend, c'est celle de Pierre Le Guénec, un électricien retraité qui comparaît depuis aujourd'hui devant la justice, car il est soupçonné de recel sur 271 œuvres de Pablo Picasso. En effet, Pierre Le Guénec a été l'électricien de Pablo et Jacqueline Picasso, monsieur et madame comme il les appelle. Pendant des dizaines d'années, il a conservé dans son petit garage donc ses centaines de toiles ou de croquis ou de simples dessins. La plupart ne sont pas signées, mais elles sont bien du maître. Des cadeaux, selon lui, de Picasso, qui les lui offrait soit pour le remercier ou tout simplement pour se débarrasser de trop nombreuses ébauches. Alors ce trésor est resté totalement ignoré jusqu'en 2010, date à laquelle le vieux monsieur a pris contact avec la Picasso Administration, chargée d'authentifier les œuvres que lui avait soigneusement classées. Les héritiers Picasso tombent des nues, la signent devant la justice pour l'avocat des plaignants. Soit le Guénec s'est servi carrément dans l'atelier de Picasso, soit, dit-il, on a affaire à un blanchiment international d'œuvres d'art et c'est à lui qu'on a confié ses œuvres volées parce qu'il avait eu des rapports avec Picasso. Je rappelle tout de même que toutes ces œuvres ne lui ont pour le moment rapporté aucun argent. Dans tous les cas, dit l'avocat des héritiers Picasso, le mythe du petit électricien a vécu.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. Ce mardi, l'ONG Human Rights Watch a rendu son nouveau rapport sur les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers de l'île de Saadiyat. Exactement, à Abu Dhabi. C'est sur cette île que le premier émirat construit en ce moment le musée du Louvre à Abu Dhabi, la fondation Guggenheim ainsi qu'un campus de la New York Abu Dhabi University. Et le rapport est accablant.
Oui, alors il faut dire que déjà ça fait 5 ans que cette ONG Human Rights Watch enquête sur les conditions de travail de ces ouvriers immigrés, donc qui travaillent sur des chantiers qui sont absolument titanesques. Le premier en 2010 avait été carrément un électrochoc. On y découvrait donc que plusieurs milliers d'hommes venus majoritairement du Bangladesh, du Népal, de l'Inde, travaillaient donc dans ces nouveaux temples de la culture, dans des conditions absolument indignes et sans respect aucun des normes de l'Organisation internationale du travail. Jean-Marie Fardeau, président de Human Rights Watch France.
Le plus choquant sans doute parmi tous les problèmes que rencontrent ces travailleurs migrants, c'est d'abord les frais de recrutement que la plupart d'entre eux ont dû payer pour pouvoir venir travailler aux Émirats Arabes Unis, des frais qui auraient dû leur être remboursés et qui ne l'ont jamais été. Et donc la plupart de ces travailleurs ont emprunté parfois 1 000, 2 000, 3 000 dollars pour pouvoir obtenir ce visa de travail. Et malheureusement, les entreprises qui les recrutent ne les remboursent pas de ces frais de recrutement, alors que la loi aux Émirats les y oblige normalement. Quand ils arrivent, ils signent immédiatement un contrat avec leur employeur, souvent un contrat qu'ils ne peuvent même pas lire parce qu'il est rédigé en arabe, une langue qu'ils ne savent pas lire. Il leur est très difficile par la suite de changer d'employeur si leurs droits sont bafoués parce que la loi est extrêmement restrictive aux Émirats pour changer d'employeur quand vous êtes en désaccord avec lui.
Déparution de ce rapport, les autorités émiriennes ont tout de suite contre-attaqué.
Oui, parce qu'il faut dire que ce dossier est clairement une épine dans le pied pour les Émirats. Depuis que Human Rights Watch travaille sur ce sujet. Plusieurs collectifs d'artistes se sont formés pour dénoncer le problème. Beaucoup ont refusé du coup de participer au projet de la Fondation Guggenheim à Abu Dhabi. Les autorités émiriennes ont donc pris des mesures, disent-elles dans leur communiqué. Elles indiquent qu'elles ont mis en place des codes de conduite pour les entreprises, qu'elles ont créé un village pour accueillir quelques 1050 travailleurs, où tout le monde jouit maintenant de conditions irréprochables, d'assurance santé, que désormais tous les travailleurs ont accès à leur passeport, alors qu'auparavant il leur était systématiquement confisqué par l'employeur. Jean-Marie Fardeau salue en effet de vraies avancées, mais indique qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
C'est vrai que des efforts ont été faits et le plus remarquable, c'est certainement que TDIC, donc le maître d'ouvrage du Louvre et du Guggenheim, a accepté d'employer une société indépendante, PricewaterhouseCoopers, pour faire des audits sociaux sur ces chantiers. C'est vrai que ça s'est un peu amélioré sur les passeports, mais TDIC, dans son communiqué d'aujourd'hui, évite de répondre aux questions les plus dérangeantes qui sont est-ce que les ouvriers sont remboursés de leurs frais de recrutement ? Est-ce que il est vrai, oui ou non, que 467 ouvriers qui ont fait grève sur les chantiers d'Arabtech, l'une des entreprises qui travaille pour TDIC, ont été renvoyés au Bangladesh sans autre forme de procès? Est-ce que c'est vrai que les conditions de vie ne sont pas bonnes pour beaucoup de travailleurs qui ne vivent pas dans le fameux village modèle, etc., etc. Toutes ces questions, TDIC évite d'y répondre, et pourtant ce sont les questions majeures pour ces ouvriers.
Voilà, alors Jean-Marie Fardeau de Human Rights Watch qui appelle toujours le Louvre, qui a reçu, je le rappelle, 175 millions d'euros de la part d'Abu Dhabi pour réaliser ce projet, à réagir et à faire pression sur les autorités émiriennes.
Tout de suite, on passe au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec les très bons résultats du cinéma français et du cinéma espagnol. Spectaculaire inversion de la tendance en Espagne qui permettent à la fréquentation des salles obscures d'afficher une timide progression de 0,6% en 2014. Mais c'est très important puisque c'est la première fois depuis le début de la crise. La fréquentation en Espagne est en hausse de 14% alors que le pays souffre beaucoup. En France, les bons résultats sont le fait des productions nationales qui atteignent leur plus haute part de marché en 30 ans, c'est-à-dire 44%.
Le carnaval de Rio prolongé pour fêter ses 450 ans.
Et oui, c'est ce que vient d'annoncer le maire de Rio, Eduardo Paes. Le carnaval qui devait se tenir entre le 13 et le 17 février officiellement avec le défilé dans le Sambódromo va se prolonger en fait jusqu'au week-end du 28 février et du 1er mars. Les célébrations des 450 ans de Rio incluent un marathon culturel, des expositions, des ateliers, des représentations théâtrales. Elles se poursuivront jusqu'aux Jeux Olympiques d'août 2016, dont Rio sera la première ville d'hôte d'Amérique du Sud. On a vraiment envie d'y être.
Et la dernière.
C'est encore une petite histoire de musée, de stars déchues, de squelettes déchues même. Et oui, alors si vous connaissez Londres, vous avez sans doute peut-être visité le musée d'histoire naturelle, qui est l'un des plus beaux musées d'histoire naturelle d'Europe, des plus visités aussi. Depuis 1979, et ben, quand vous entrez dans cette vénérable institution, vous êtes accueilli par un squelette géant de Diplodocus. En fait, c'est un faux squelette, il est en plastique, c'est un moulage, mais le public l'adore. Il a même un petit surnom, il s'appelle Dippy. En général, quand vous entrez, vous faites une petite photo avec lui. Toutes les classes de sciences nat en général ont une photo avec ce fameux Dippy.
Ça existe encore, les classes de sciences nat?
Mais bien sûr que ça existe. Alors, on appelle ça biologie ou SVT, mais bon, ça reste quand même de la science nat. Alors voilà, ce fameux Dippy, très adoré, il aura résisté au passage de 6 premiers ministres qui eux aussi sont pris en photo avec lui, mais pas à l'arrivée d'une certaine baleine bleue, car en effet, le dinosaure va devoir être remplacé pour céder sa place au squelette véritable cette fois, d'une grande baleine, la plus grande créature sur Terre, je le rappelle. Il est prévu qu'elle soit fixée au plafond, qu'elle plonge vers le bas, bouche ouverte, comme pour engloutir les visiteurs de ses énormes mâchoires. Alors voilà, devant cette annonce, tollé en fait. Plusieurs pétitions, plusieurs centaines de personnes pleurent. Pourquoi Dippy s'en va? Pourquoi? Et bien du coup, le musée envisage de faire une copie de Dippy, une copie imperméable pour qu'il puisse accueillir les visiteurs au dehors.
Bien belle histoire.
C'est mignon, hein?
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Laurent Génie, Frédéric Pajac? Frédéric Pajac, botte en touche, pas mis du côté de Laurent Génie. On commence.
Le rendez-vous.
La peinture, ça vaut cher, c'est une idée d'objet dans la tête des gens, c'est l'art. Alors le dessin, pour eux, c'est toujours un peu une esquisse ou bien quelque chose qui n'est pas fini, sur lequel on n'a pas fait assez d'efforts pour en faire un objet précieux. C'est une question de valeur, souvent, malheureusement, quand on parle d'art.
Plateau, état des lieux avec vous, Frédéric Pajac, écrivain, peintre, dessinateur, éditeur, lauréat du prix Médicis Essai 2014 pour le troisième volume de votre manifeste Incertain. Et vous êtes l'éditeur des Cahiers dessinés, une revue et collection que vous avez fondée en 2002, qui met le dessin à son programme sans distinction de genre. Et pour fêter ça, pour fêter le dixième numéro, vous signez une exposition pléthorique à la Halle Saint-Pierre à Paris. 70 artistes, illustrateurs, satiristes, peintres, écrivains, plus de 700 dessins à la mine, au stylo, pinceau, aquarelle, encre, tous en lien bien sûr avec la collection des cahiers dessinés. On vient d'ouvrir le plateau sur la voix de Topor, qui est présent évidemment dans l'exposition. Le dessin, toujours parent pauvre des beaux-arts. C'est ce qu'il dit. Vous êtes d'accord avec cette définition encore aujourd'hui?
Ça date un peu, je crois. Oui, au moment où j'ai créé cette collection, qui est en fait maintenant une maison d'édition à part entière, je disais la même chose. Je disais le dessin est le parent pauvre des arts, et pas seulement de la peinture, de la sculpture aussi. Et aujourd'hui, je trouve que ça a beaucoup changé. Je pense que, d'une part, pour des raisons marchandes, c'est-à-dire qu'il y a un marché du dessin. Et hélas, il y a un marché du dessin, mais en même temps, ça permet de découvrir le dessin ou le redécouvrir. Et je pense que maintenant, pour moi en tout cas, la distinction entre peinture et dessin n'existe plus vraiment. Je pense qu'on est toujours en train de glisser d'une manière de faire à une autre. Et il y a des allers-retours permanents.
En 2002, quand vous avez commencé donc cette revue, cette collection, plus tard donc la maison d'édition, quel était le premier dessinateur que vous publiez qui pourrait être justement une sorte de manifeste? Et pas si incertain que ça à l'époque. C'était lequel le premier?
En fait, j'en ai sorti 6 en même temps, donc plus la revue. mais parmi les premiers, il y avait Copy. Ouais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé Copy. Et Copy avait fait un livre qui s'appelle Le Livre Blanc, qui existait en italien, qui s'appelait Un Libro Bianco di Copy. Et il n'y avait pas de couverture. Enfin, la couverture était blanche, il n'y avait pas de titre, il n'y avait pas rien d'écrit sur ce livre blanc. Et enfin, moi, je connaissais cette édition italienne qui évidemment, s'était jamais vendue. Et donc, on a fait une édition française. Et c'est un livre assez... C'est vraiment un livre écrit et dessiné par Copy. C'est pas une bande dessinée. C'est un livre qu'il a écrit et dessiné en une nuit. Une nuit d'ivresse, d'ailleurs.
Madame Farine.
Frédéric Pajac, l'exposition à la Halle Saint-Pierre chemine véritablement sans restriction de genre, hein, c'est-à-dire qu'on va y trouver à la fois des artistes estampillés art brut comme Marcel Bascoulard, on va y revenir, des dessinateurs de presse comme Chaval, des estampes de peintres comme celle de Félix Vallotton ou les encres de Victor Hugo. Et c'est d'ailleurs avec Victor Hugo que vous démarrez en tout début d'exposition, au centre, presque comme une sorte de socle. Pourquoi fallait-il commencer par lui?
Parce que c'est un inventeur. C'est un inventeur, il a inventé une forme de dessin. Il n'est pas seulement un écrivain qui dessine, il invente, il passe du dessin grotesque à un dessin presque spirit ou un dessin qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de surréaliste. Donc il n'a pas de restriction, en fait. Et puis, il invente aussi de façon technique, c'est-à-dire il peut dessiner avec du marc de café. Il utilise des matériaux qui ne sont pas les matériaux ordinaires du dessin.
Au rez-de-chaussée, il y a aussi un ensemble de dessins absolument hallucinants de précision qui sont signés en russe et en allemand de Marcel Bascoulard, qui était un personnage plutôt singulier. C'était un clochard à Bourges, mort assassiné en 78, qui avait pour particularité de s'habiller régulièrement en femme et d'être photographié par le photographe de la ville. Il dessinait sans relâche et avec un réalisme sidérant sa ville, de jour, de nuit, c'était un autodidacte, hein, par ses paysages, ses monuments, ses rues, sans jamais aucune figuration humaine. Ses dessins ont été publiés par les cahiers dessinés. Vous avez mis 10 ans à concevoir ce livre. Qu'est-ce qui l'a rendu si difficile et comment vous êtes tombé, vous, sur cet artiste?
En fait, je suis tombé dessus. Enfin, j'ai été... On en a parlé. C'est le fils de Raymond Queneau, Jean-Marie Queneau, qui est lui-même peintre-dessinateur, qui m'en avait parlé parce qu'il l'avait rencontré dans sa jeunesse. Et puis, en fait, il y avait une publication qui avait été faite à Bourges sur Bascoulard. Et à l'époque, je m'y suis intéressé. J'ai commencé par écrire un article qui s'appelle « Il n'y a personne dans les rues de Bascoulard ». Et après la publication de cet article dans la revue Le Cahier Dessiné, je me suis mis en quête de trouver les dessins avec l'aide de Patrick Martina, qui est un journaliste de Bourges et puis qui a travaillé, qui a écrit le texte et puis qui m'a aidé à rencontrer les collectionneurs entre guillemets, c'est-à-dire souvent le boucher du coin, le tailleur, un couvreur de toit, donc des gens qui ont reçu des dessins de Bascoulard souvent en échange, Par exemple, le boucher a reçu des dessins contre la viande hachée pour les animaux de Basse-Couillard. Basse-Couillard ne mangeait pas de viande. Il se nourrissait essentiellement de lait, de fruits. Et par contre, il avait une meute d'animaux oubliés. Et il les nourrissait avec cette viande hachée. Donc ces dessins sont un peu partout, quoi. Et d'ailleurs, depuis la publication du livre au mois de novembre, il y a beaucoup de gens qui se manifestent pour dire qu'ils ont des dessins
des
de Basse-Couillard.
Donc, des électriciens parmi eux.
Voilà. Donc ce qui est vraiment très très intéressant, parce que ça nous permettra de faire un deuxième livre. Et puis moi j'ai vu par exemple un dessin, parce que vous l'avez souligné, il y a jamais personne dans les rues de Basse-Couillard. Il a vidé les rues de Bourges de ses habitants et de ses voitures aussi. Mais j'ai vu une photo d'un dessin comme on voyait, où c'est un pont avec un chemin de fer. Et là, il y a vraiment un véhicule qui est le chemin de fer, qui est la locomotive qui fume. Et c'est un dessin assez mélancolique qui peut faire penser d'ailleurs à certaines visions de Quirico. Et évidemment, ce n'est pas un hasard, parce que Basse-Couillard avait une passion pour les locomotives. Et dans l'ouvrage qu'on a fait paraître, il y a des photographies de Basse-Couillard, de locomotives.
Dans le cahier dessiné consacré à l'exposition, vous écrivez, Frédéric Pajac, « Le dessin académique exécuté sur le motif a encore de beaux jours devant lui, parce que ses assassins ont crié victoire trop tôt. Qu'est-ce qu'il s'agissait d'abattre, que cherchaient ces assassins, et quels pourraient être les enjeux, alors du coup, aujourd'hui, du dessin académique sur le motif ?»
Moi, je crois surtout, il faut pas faire de théorie sur le dessin, il faut surtout pas le réduire, parce que c'est un langage, c'est notre langage, c'est notre premier langage, donc c'est un langage qui nous permet de tout dire, et de toutes les manières, qui peut exprimer tous les sentiments, qui peut être le sentiment du deuil, le sentiment de joie, un sentiment qui peut parler de la famille, qui peut parler de soi-même, qui peut parler de la nature, qui peut parler de... Enfin, tout est possible, et donc, c'est vrai que quand... par des divers modes, on a voulu supprimer le dessin académique en disant que c'était ringard ou que c'était dépassé. Enfin, pour moi, rien n'est dépassé. Le dessin n'est jamais dépassé. Il y aura toujours un dessinateur qui saura peut-être avec justement des règles académiques, mais les transcender. Tout en restant académique, en renouvelant l'académisme. Par exemple, on parle de Basse-Couillard, mais Basse-Couillard, il a un œil photographique. On disait qu'il a un œil photographique. Il dessine pas d'après photo, il dessine d'après nature. Mais au fond, si on regarde bien ses perspectives, parce que dans tous ses dessins, il y a une perspective, et ces perspectives sont pas tout à fait dogmatiques.
Il y a une étrangeté quand même dans ces.
Elles sont légèrement déformées. Il déforme la perspective. Donc, pour moi, par exemple, les dessins de Basse-Couillard, en dehors que ces dessins d'un clochard et d'un personnage tout à fait extravagant, qui effectivement s'habille en femme, etc., mais c'est les dessins du point de vue de la qualité du dessin qui sont absolument extraordinaires. Il est capable, par exemple, de dessiner la cathédrale de Bourges sous toutes ses coutures, y compris en négatif. Et il peut la dessiner comme il vivait sur un terrain vague, dans une cabine de camion désaffecté. Il était capable, à la lueur d'une petite lampe, de redessiner la cathédrale de Bourges. Il l'a dessinée, je ne sais pas, probablement des dizaines et dizaines de fois.
Vous avez été longtemps peintre, hein, pendant 20 ans, je crois, Frédéric Pajac, et vous avez testé toutes les techniques pour peindre les arbres d'abord. Pourquoi ce motif, puisqu'on parle de motif, comment il s'est imposé? Qu'est-ce que ce motif vous permettait?
Bon, moi, je n'ai pas vraiment fait de la peinture pendant 20 ans. J'en ai fait à certaines périodes de ma vie, sur une longue période, effectivement, mais je n'ai jamais été un peintre. Je ne me suis jamais dit je vais devenir peintre. Je suis déjà fils de peintre, petit-fils de peintre. Je trouvais que ça suffisait déjà dans une famille. Et donc, mais j'ai fait beaucoup de peintures dites abstraites et je me suis intéressé, et je m'intéresse toujours au dessin sur le motif, à la peinture sur le motif, c'est-à-dire à des choses qui sont complètement, presque banales, c'est-à-dire des arbres qui se reflètent dans une rivière ou dans un lac. Donc la simplicité de cette composition.
Laurent Génie, vous n'avez pas vu donc, l'exposition à la Halle Saint-Pierre, mais vous avez eu entre les mains le Manifeste incertain qui a reçu le prix Médicis de l'essai.
Le volume 3.
Le volume 3. Est-ce que quelque chose vous a marqué justement dans la lecture que vous avez pu en faire ?
Beaucoup de choses, mais j'aurais une question à poser. Allez-y. Sur les dessins, justement, puisqu'on parle des dessins. Et, certains sont manifestement faits d'après photographie. Il y en a d'autres qui sont faits sur le motif, effectivement.
Là, vous parlez de mes dessins.
Oui, oui, les vôtres, dans le Manifeste incertain.
Oui, j'ai pas de...
Pas de méthode ?
Il n'y a pas de règle. Le dessin, pour moi, il doit surgir. Enfin, c'est pas parce que je peux dessiner, par exemple, d'après une photographie, mais au fond, je copie pas la photographie. J'essaye de dessiner librement d'après cette photographie. Mais c'est vrai que si je dois représenter le portrait de Nietzsche ou de Walter Benjamin, je pars d'un document, d'une photographie. Je veux pas inventer son visage. Ouais. Donc, ça, et je pense dans mes livres, ça le document. Il y a quelque chose du document, mais ce n'est pas systématique, parce que je peux très bien dessiner d'après l'imagination, ou bien dessiner sur le motif. Tous les dessins qui représentent la nature, d'une manière ou d'une autre, sont tous dessinés en plein air.
Ce qui me frappe aussi, c'est la contamination du dessin par la photographie. Vous l'évoquiez à propos de Basse-Coulard, qui peut dessiner même en négatif. Et moi, en vous écoutant, je pensais... Vous disiez qu'il avait vidé les rues de Bourges. Je pensais à Adjet, en fait, et aux rues vides de Paris, à cette œuvre photographique, là aussi, d'un personnage très, très singulier. Et j'y pensais aussi à propos de Hugo, parce que personne n'a été plus près du jeu sur le négatif, à la fois dans la photo et dans les encres aussi de Victor Hugo. Voilà, c'est ce qui me venait à l'esprit.
C'est très juste, Adjet, c'est très juste. On a le même sentiment d'une sorte de mélancolie, d'un monde perdu. C'est vrai qu'il y a une forte similitude.
Ouais. Manu Farine.
Le Manifeste incertain, donc là en l'occurrence le volume 3 que vous avez signé en 2014, dont on parlait à l'instant, donc ce sont ces espèces de récits écrits et dessinés. Et vous dites, Frédéric Pajac, dans l'écriture, je besogne, en revanche, je dessine maintenant avec beaucoup de facilité. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui, à un moment donné, aurait libéré le dessin chez vous ?
Alors, je pense que c'est assez particulier ma façon de dessiner, parce que si vous voulez, et ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis que je fais ce manifeste, depuis trois ans, je dessine jamais. C'est-à-dire que je dessine un mois et demi par an. Et tout le reste de l'année, je ne fais jamais un dessin. Donc, c'est une manière assez particulière, je pense, de dessiner, parce que moi qui publie beaucoup de dessinateurs, les dessinateurs sont toujours en train de dessiner tous les jours. C'est presque une gymnastique. Moi, j'aime bien m'abstraire de... et donc, oui, quelque chose s'est libéré, parce que je suis obligé je m'oblige à travailler dans un temps très limité.
C'est en 1999, avec l'immense solitude que vous avez publié à cette époque, que vous avez mis en place une forme qu'on vous connaît désormais, c'est-à-dire où texte et dessin se lisent ensemble comme des récits écrits et dessinés. Pourquoi, à ce moment-là, dans votre parcours, cette forme s'est imposée ?
Parce que je l'ai cherchée pendant jusqu'à l'âge de 45 ans. Je ne la trouvais pas, cette forme. Et puis, aucune forme me satisfaisait, c'est-à-dire l'écriture, enfin le livre, le roman, tout ça. Je me suis un peu essayé, mais ça ne me satisfaisait pas. Et puis, la bande dessinée, je me sens très loin de la bande dessinée, d'avoir un personnage qui revient avec des bulles et tout ça. Enfin, c'est très loin de moi. Et je cherchais, en fait, une forme qui puisse aussi rendre compte de mes intérêts, c'est-à-dire des intérêts pour la philosophie, pour la poésie, pour le voyage, pour la biographie, pour l'autobiographie. Donc, comment mélanger tout ça ? Puis finalement, j'ai trouvé cette forme par hasard. Et puis elle me... Je dirais pas qu'elle me convient, mais... j'arrive pas à en trouver une autre, quoi.
Laurent Génie ?
Oui, il me semble que cette forme, elle a quelque chose qui relève du montage. C'est vrai aussi de la construction du livre, puisqu'il croise, en fait... des destinées, celle de Benjamin et celle de Pande, et c'est une sorte de montage biographique, et le dessin, me semble-t-il, interfère encore, apporte un autre niveau de montage. Enfin, c'est comme ça que je l'ai éprouvé, en tout cas.
Oui, c'est un peu comme un film. Je dis souvent que les dessins, c'est la musique.
C'est-à-dire ?
Ben c'est dans un film, il y a des acteurs, il y a une action, il y a des paroles, et puis il y a la musique. Et pour moi, les acteurs et les paroles, c'est le texte. Et il y a une musique dans le dessin, pour moi.
Manu.
Comment est-ce qu'il faut comprendre ce manifeste incertain, c'est-à-dire cette expression oxymorique hein, qui affirme et qui doute dans le même temps, Frédéric Pajac?
Au fond, ce titre m'a été inspiré il y a très longtemps, c'est-à-dire je vais avoir 18 ans, et je travaillais dans les wagons-lits internationaux, et à cette époque, j'allais très souvent à Rome, tous les 3 jours, et puis je pense que c'est dans un train que j'ai dû avoir cette idée, parce que l'Italie à cette époque était en proie au terrorisme et aux idéologies qui ont dégénéré, en fait, les idéologies maoïstes sont devenues Brigade Rouge, etc. Et puis les idéologies fascistes aussi. Et en fait, on vivait complètement dans cette époque dans des certitudes idéologiques. Trotskisme, même l'anarchie était une certitude idéologique. Et moi, je ne me suis jamais reconnu, ni dans ma jeunesse, ni aujourd'hui, dans aucune idéologie. Et donc, ce titre est une forme de réaction.
Est-ce qu'il y a des motifs, des choses que vous n'aimez pas dessiner?
Alors, presque tout, Jacques. Je dirais. Je dirais presque tout, et quand j'ai fait l'immense solitude, j'ai passé 4 ans à Turin pour dessiner Turin. En fait, je n'aimais pas du tout dessiner des villes, faire des perspectives, construire, dessiner des immeubles, des bâtiments, des églises, et tout ça. Je trouvais ça fastidieux. Et au fond, je n'avais pas d'autre solution pour exprimer la tristesse profonde que de Turin, la mélancolie qu'il y a dans Turin. Il fallait en passer par quelque chose d'assez réaliste. Et aujourd'hui encore, il y a énormément de dessins qui sont du labeur, en fait, mais qui sont un labeur quand même libératoire.
Et nous ?
Il y a un questionnaire en tout début du catalogue, hein, qui fait office donc, de catalogue d'exposition, dans lequel les écrivains parlent du dessin, Pierre Bergugno, Linda Lay ou Éric Chevillard. Question posée, qu'on vous retourne donc. Selon vous, qu'est-ce que savoir dessiner ?
Je ne saurais pas y répondre, c'est pour ça que j'ai demandé à des écrivains d'y répondre, parce que franchement, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas ce que ça
veut dire. Un début de réponse.
Je ne saurais jamais ce que ça veut dire, savoir dessiner.
Pourquoi avoir demandé à des écrivains?
Parce que peut-être qu'ils avaient une réponse.
Pas des musiciens?
Oui, peut-être une autre fois, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui dessinent. Hein.
Autre question, mais je pense que la réponse va être du même ordre. Le dessin d'humour vous fait-il rire, et quelle est la nature de ce rire?
Dessin d'humour, on dit toujours que c'est la politesse du désespoir. Chaval le disait, le répétait.
Chaval qui est en bas hein, dans l'exposition.
Oui, c'est un beau dessin. Et c'est tout à fait vrai. Quoi. C'est tout à fait vrai que c'est... L'humour est désespéré. L'humour n'a... Moi, je pense que l'humour n'a pas de maître, n'a pas de... On ne peut pas être militant et dessinateur d'humour. L'humour, c'est... Le dessin d'humour, c'est un peu comme l'aphorisme, c'est cette puissance de l'aphorisme. Je pense à des grands dessinateurs comme Sempé, ce sont des moralistes, au sens de Champfort, de Vauvenargues. C'est des gens qui font une œuvre de... Leur humour est quelque chose d'assez intellectuel, dans le fond.
Justement, à propos de ça, à l'étage, on trouve Reiser, Ciné, GB, comme une sorte de mémorial à Harakiri. Il se trouve qu'on n'y trouve aucun dessinateur de Charlie.
Si, on trouve Willem.
Ah oui, c'est vrai.
Oui. Enfin, c'est par hasard, parce que l'exposition s'est préparée il y a un an.
Oui, très en amont. Oui.
Je voulais surtout rendre hommage à ces dessinateurs effectivement, auxquels on peut ajouter Fournier et Willem, et Vuillemin aussi, qui est quand même un dessinateur extrême, que j'aime beaucoup. Et puis en fait, je n'avais pas envie de montrer du dessin de presse, ce qu'on appelle le dessin de presse aujourd'hui, qui est quelque chose qui me déplaît profondément, parce que je pense que de dessiner la tête de François Hollande, de Sarkozy, avec une petite blague autour, ça, pour moi, ce n'est pas du dessin. Il n'y a pas de beauté. Un bon dessin doit être un beau dessin. Alors, je suis prêt à passer pour un esthète, je m'en moque, mais c'est vrai que je suis sensible au beau dessin. Et Willem fait des beaux dessins, c'est-à-dire qu'il utilise le langage du dessin pour... Il crée un espace du dessin qui est exceptionnel. Et il y a un dessinateur qui est représenté dans cette exposition, qui est El Roto, qui est le dessinateur El Roto, le cassé, qui est le dessinateur de El País, qui chaque jour fait un dessin dans El País, qui est pour moi un génie du dessin. Alors lui, c'est une leçon de dessin de presse, parce que c'est tellement exceptionnel son dessin. Et d'ailleurs, quand je suis allé chez lui à Madrid, eh bien, sa bibliothèque, voilà, il y a Spinoza, il y a Walter Benjamin, il y a Nietzsche, il y a toute la littérature, toute la poésie, c'est un intellectuel. Et je pense qu'il faut être un intellectuel, il faut avoir quelque chose à dire, un monde à proposer dans le dessin.
Frédéric Pajac, comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi.
Je vous vois encore en robe d'été, blanche et jaune avec des fleurs de rideau. Mais vous n'aviez plus l'humide gaieté du plus délirant de tous nos tantôt, du plus délirant de tous nos tantôt. La petite épouse et la fille aînée étaient reparues avec la toilette, et c'était déjà notre destinée qui me regardait sous votre voilette, qui me regardait.
Identification de ce son, Frédéric Pajac, et la raison pour laquelle vous l'avez choisi?
C'est Verlaine. Verlaine chantait d'une façon très douce et assez exceptionnelle par Léo Ferré, comme une confidence. Et puis ce poème est extraordinaire, parce que c'est un petit tableau. C'est vraiment un tableau. Et un peu du temps qui passe, comme ça. Et ce que je préfère, c'est l'humide gaieté.
L'éclair de côté que coulait votre œil, l'éclair de côté.
Le rendez-vous, la chronique.
Frédéric Pajac et Laurent Gagnon, on vous retrouve dans quelques instants, mais c'est d'abord la chronique du mardi, revue et corrigée par Thomas Clerc. Ce soir, Thomas.
Eh bien, Criticat, une revue rare, une revue spécialisée, une revue d'architecture paraissant deux fois l'an. Et c'est le numéro 14. Il est orné d'une formule finale qui me réjouit toujours. Les textes publiés dans Criticat n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. La revue est belle, sobre et se présente sous la forme d'un rectangle de 23 par 16 cm qui évoque en miniature un building. Et comme la maquette est simple, eh bien, c'est un building moderniste. Remarquons d'ailleurs que la plupart des revues spécialisées ont une maquette sobre, tandis que les journaux et magazines à grand tirage sont d'une exubérance notoire. Enfin, encore un mot sur la couverture plastifiée sur fond noir. Se lit difficilement un texte dont se détachent quelques mots en surimpression blanche, comme lorsque regarde un paysage de ville au néon, brique, activiste, sauvage. Alors Criticat tranche avec le côté tout visuel des magazines d'architecture traditionnelle, qui sont plus ou moins commandités par leurs promoteurs. Ici, le texte et l'image sont dans un rapport de meurtre impossible, contraire au fameux précepte de Victor Hugo, nous en parlions à l'instant, quel hasard objectif dans Notre-Dame de Paris, et Hugo écrivant « Ceci tuera cela, le livre tuera l'édifice ». Eh bien ici, les photos sont nombreuses, mais elles ne sont pas envahissantes, un peu à différence des magazines de mode où l'essentiel est de voir les vêtements et non pas de se prendre pour des artistes. Ici, on apprécie les photos en fait tout en noir et blanc qui sont au service du référent. Parfois pleine page d'ailleurs, comme logement intergénérationnel à Palm Beach, ou bien demi-page comme, c'est une photo suisse, le portail du tunnel de Blaskina sur l'autoroute du Gotthard, qui propose un contraste très helvétique entre les Alpes et une quatre voies, aimablement légendée « Héroïsme après le choc pétrolier », car l'ouvrage date de 1975. À noter toujours pour la partie visuelle, un portfolio qui intéressera peut-être Frédéric Pajac, de l'architecte et illustrateur, ça ne va pas toujours ensemble, Mehdi Zenad, qui fait une suite de dessins à l'encre qui croque les principales réalisations de ce phénomène envahissant et abject que tout le monde connaît, le mobilier urbain. Tout y passe, le couple de potelets reliés par une chaîne, la bite rétractile en zone piétonne, ou le protège-trottoir cruciforme, tous ces instruments sadomaso, dont l'exemplaire le plus récent, et vous l'aurez remarqué, la poubelle ouverte en forme d'amphore, dans lequel le sac poubelle s'insère mal, ce qui fait que les détritus tombent autour. Hélas, on ne délivre pas le nom du designer dans la revue. La délation, ça a parfois du bon. La partie texte est solide. On appréciera le béton, cet ornement, qui ravira les amateurs, j'en suis, de ce matériau pour lequel la préfabrication lourde n'est pas nécessairement associée aux heures noires du modernisme. Un témoignage étonnant d'Andrew Leach, un architecte qui est allé vivre sur la côte nord de l'Australie, dans les résidences balnéaires qui sont habitées de façon intermittente, saisonnière. Alors il essaye pas vraiment de les sauver, mais du moins de les comprendre. On peut saluer le geste, c'est pas Jean Nouvel qui révire à Palavas les flots. On termine pour le meilleur.
Non, c'est vrai.
Une réflexion de Françoise Fromono sur le réaménagement tout récent de la place de la République, intitulé « Surface de réparation ». Et le jeu de mots n'est pas gratuit, au contraire, il est assez littéral. Il apparaît plutôt comme la formule secrète d'une opération qui divise, et l'auteur n'est pas dans l'acquiescement béat, ni dans la critique réactionnaire de cette reconfiguration de la place de la République. Elle rappelle juste que 24 millions d'euros dépensés pour faire une place où on marche, ça n'a rien de sous-évalué, mais que taxer ça d'opération bobo commanditée par les Verts, c'est un peu oublier que personne ne s'était approprié cet endroit sinistre. Donc l'auteur montre juste que ce désir de surface plane est une figure de style qui trahit une République en manque de projet architectural et politique, sur laquelle tout passe et tout glisse. Bref, critique à critique, encore un espace, il en reste, où la langue est en béton armé.
19-20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Merci Thomas, on se retrouvera la semaine prochaine, je crois, à moins que ce ne soit Anne Boulay, il faut que je vérifie dans mon planning. Plateau Rêve avec vous, Laurent Génie, écrivain universitaire, vous travaillez depuis 40 ans sur le style et la singularité des œuvres d'art. Premier roman, c'était en 67, Une saison trouble, et vous publiez cette année Le lieu et le moment chez Verdier, un livre autobiographique composé de plusieurs textes eux-mêmes divisés en fragments. On commence avec des souvenirs de votre enfance à Lyon dans les années 50, ça s'achève sur une série de paysages, et entre-temps, on aura fait des détours par mai 68, un séjour aux États-Unis, période beatnik, des conférences à l'étranger ou encore une sérieuse séance de psychanalyse. Le livre est un recueil de textes dont certains avaient déjà été publiés dans des revues. Quel est le premier que vous avez écrit et dans quel cadre pour ce projet autobiographique dispersé?
C'est le groupe Le lieu et le moment.
C'est-à-dire donc qui donne le titre à l'ouvrage,
qui donne le titre,
et qui est le texte que vous avez placé au centre de.
Oui, il est au centre. Donc c'est un compte-rendu, si on veut, de psychanalyse, mais saisi à travers des instants. C'est un peu le principe de l'ensemble du livre, c'est-à-dire que je ne cherche pas à raconter une histoire, mais à saisir des moments du temps. Et donc, cette forme fragmentaire, elle est très importante. Et j'ai voulu défaire aussi tout ce qu'il pouvait y avoir de récits dans la psychanalyse pour me concentrer sur les moments sensibles qu'occasionne en fait la psychanalyse, une certaine couleur de la moquette qui rencontre la lumière de l'après-midi.
Les tableaux, les photos qui sont dans le cabinet,
voilà,
l'escalier par lequel on arrive.
Voilà, le salon d'attente et qu'on regarde forcément. Il y avait quelques petits tableaux chez cet analyste que j'ai eu le loisir pendant plusieurs mois de regarder de près.
Lacanien ou freudien?
Il était freudien.
Vous l'aviez choisi en sorte qu'il le soit?
C'était sans parti pris dogmatique.
Lucille.
Vous avez donné des cours à l'université à Genève sur l'autofiction. Quelles questions est-ce que vous vous êtes posé, vous, avant de mettre en forme ce projet-là, que vous avez vu globalement chronologique, c'est-à-dire qu'on commence par votre petite enfance jusqu'à à peu près la mort de votre mère, avec l'évocation de motifs type des années 50, même type de l'autobiographie de cette époque-là, les péniclés, le pchit orange et j'en passe. Quelles questions vous vous étiez posé?
Je ne me suis pas du tout posé la question de l'autofiction. C'est vrai que j'ai fait un cours sur l'autofiction, mais au fond, sauf lorsque c'est Proust, c'est un genre qui ne m'intéresse pas tant que ça. J'avais envie de trouver néanmoins une forme un petit peu nouvelle d'autobiographie, si c'est pensable, une autobiographie non subjective. Effectivement, les fragments et les moments qui m'intéressent, qui ressemblent un petit peu à ce que Joyce appelait des épiphanies. C'est beaucoup des lumières, par exemple, au départ, et idéalement, j'aurais presque aimé ne parler que de la lumière d'un bout à l'autre du livre, mais c'est quand même difficile. Donc ces moments épiphaniques, ce ne sont pas des moments subjectifs. Ce sont des moments où on est personne, me semble. On est un regard ouvert sur le monde. Évidemment, ça se passe beaucoup dans l'enfance. Ce type de regard, ce type de, je dirais pas d'extase, mais d'étonnement, de stupéfaction, qui n'est pas effectivement sans résonance esthétique. Je pense à Baudelaire et aux peintres de la vie moderne. Baudelaire décrit Constantin Guy comme quelqu'un qui a un regard d'enfant, en fait, qui voit tout en nouveauté, enfin, qui voit le monde comme neuf. Mais mon projet, donc, n'était pas non plus esthétique. Je n'ai pas cherché à faire du beau. J'ai cherché à trouver ces moments où le sujet disparaît. Alors, c'est un peu paradoxal, en fait, pour une autobiographie. J'ai cherché aussi des moments... Alors, c'est vrai que l'ensemble est chronologique, mais j'ai cherché des moments où on sortait du temps, où ces moments sont si forts... qu'il se disloque entre la particularité du moment présent et puis une sorte d'éternité. Je crois que ça aussi, c'est très courant dans l'enfance. Et il arrive dans toutes sortes de circonstances que ça se produise à nouveau. Alors, bon, je pense l'un des premiers souvenirs, effectivement, que j'évoque, c'est un plafonnier au néon chez mon grand-père qui l'allumait avec une certaine solennité en prononçant les mots « le soleil ». Et le néon met un petit peu de temps à s'allumer vraiment. Il y a un petit événement dans le gaz qui me fascinait. Et j'avais le sentiment, obscur bien sûr, c'est maintenant que je peux le dire, d'une sorte d'origine du monde et de la lumière, et que ça recommençait à chaque fois comme un miracle. Et il y a toutes sortes de circonstances où on vit dans un double temps, celui de l'extrême acuité de l'instant et de son échappée.
Frédéric Pajac, peut-être un commentaire, vous qui avez aussi été tenté, et qui l'avez d'ailleurs mené, par l'entreprise autobiographique.
Je ne sais pas si... Je suis très étonné par votre démarche, en fait, parce que j'ai commencé à lire votre livre, j'ai malheureusement pas eu le temps de le terminer, donc je vois pas, j'ai pas encore une vision d'ensemble. Mais cette idée de se débarrasser de soi, en fait, dans un texte autobiographique, je trouve ça assez étonnant. Moi, j'ai eu effectivement l'occasion de m'intéresser à ce problème, parce que j'ai fait un livre qui s'appelle Autoportrait, et qui est justement précisément pas une autobiographie. Donc ça résonne en moi, ce genre de préoccupation. Et j'ai beaucoup aimé, alors que dans ce que j'ai commencé à lire, j'ai beaucoup aimé le passage sur la Révolution. Et j'ai beaucoup aimé cette langue, en fait, qui est capable de parler d'un moment où la langue cessait d'exister pour devenir une langue de bois ou des langues de bois. Donc de faire ressurgir ce temps de mai 68, de slogan, avec votre langue, j'ai vraiment beaucoup apprécié, je suis très sensible.
Alors comme tous les jours, on demande à nos invités d'apporter un son qu'ils ont envie d'entendre et qui les a marqués. Voici ce que vous avez choisi, Laurent Jeanny.
Faudrait inventer un autre, moi c'est le mot qui s'impose universitairement, un cours magistral. Faudrait chercher un autre mot, c'est-à-dire presque à la limite, c'est plus une espèce de conception musicale d'un cours. Alors qu'est-ce que ça veut dire une conception musicale d'un cours? Moi je crois deux choses, hein. Enfin dans mon expérience, sans du tout dire que c'est cette conception-là qui est la meilleure. Je dis la mienne telle que je vois les choses. Tel que je connais, moi, un public, ou ce qui a été mon public, je me dis, il arrive constamment que quelqu'un ne comprenne pas sur le moment. Et puis, il y a ce qu'il faudrait appeler les effets retardés. Là aussi, c'est un peu comme en musique. Sur le moment, tu ne comprends pas un mouvement. Et puis, 3 minutes après, ça devient limpide. Ou 10 minutes après. Mais s'il s'est passé quelque chose entre-temps. Un cours, c'est une espèce de matière en mouvement. Et c'est par là que c'est musical. Un cours, c'est de l'émotion. C'est autant d'émotion que d'intelligence. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien.
Identification de ce son est la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Laurent Génie.
Alors, il s'agit donc de Deleuze, qui, dans la rubrique professeur de l'abécédaire, il développe donc... Alors, cette idée que je trouve très belle et très frappante, très à contre-courant de notre présent aussi, qu'il faut laisser le temps à la parole. Et aussi, surtout peut-être dans l'espace pédagogique, dans l'espace de l'enseignement. Ce que Deleuze essaye de dire, c'est qu'il faut laisser le temps à l'incompréhension. Et au fait qu'une parole chemine dans l'écoute des auditeurs. Il dit aussi dans cette rubrique, c'est comme une musique et donc ça ne s'interrompt pas. Hein. Je pense que ça veut dire aussi que dans sa conception du cours, effectivement, ça s'écoute comme une musique. Dans une musique, il y a des motifs qui se dégagent, en fait, mais pas tout de suite. On n'interrompt pas tout de suite une musique pour savoir quel est le motif. Il faut attendre son développement et il faut laisser en soi ce travail se faire. J'aime beaucoup cette idée, au fond, d'exigence du temps.
C'est curieux pour quelqu'un qui travaille le fragment.
Oui, c'est vrai. Mais un cours, ce n'est pas la même chose que l'écriture.
Lucille Comeau.
Vous dites, Laurent Génie, avoir décidé très tôt de ne pas écrire de roman, alors même que vos premières publications s'appelaient roman, Une saison trouble en 67 et puis Off en 71. Contre quel roman est-ce que vous travaillez à ce moment-là?
Je ne crois pas que je travaille contre le roman. Je pense que je ne suis pas doué pour ça, tout simplement. Et je l'ai compris il y a un certain nombre d'années. J'ai compris que je n'avais pas d'imagination narrative, mais qu'en revanche... justement, j'avais peut-être une saisie de l'instant. La raison pour laquelle j'ai arrêté d'écrire des romans, c'est que mes romans se fragmentaient, en fait, de plus en plus. Et évidemment, c'est pas bien pour un roman. Il y a un moment où on m'a dit d'arrêter, que ça n'allait pas.
Qui vous a dit d'arrêter? L'éditeur? L'éditeur C, qui est dans le...
Oui, c'était Jean Cayrol. Il m'a pas dit d'arrêter d'écrire, bien sûr. Mais c'est simplement... qui n'a pas voulu d'un roman que je lui avais proposé.
C'est-à-dire que la forme fragmentaire, ça vous permettrait d'éviter le roman. Vous dites d'ailleurs dans c'est le chapitre littérature, j'aime le continuement discontinu. C'est ça qui se joue en fait,
oui,
dans le contre-roman.
Oui, c'est ça. Il y a des romans qui le pratiquent. Je pense à Nadja. Enfin, Nadja n'est pas un roman, mais je pense au Bleu du ciel de Bataille. C'est deux textes qui m'avaient beaucoup plu à cause de leur discontinuité quand je les ai lus très jeune. Et je crois que j'ai simplement été au bout de cette fragmentation jusqu'au point où elle deviendra une forme. Et une forme pas celle d'une fiction ratée, mais j'espère celle d'une approche autobiographique réussie.
Lucille.
Vous parlez d'un de vos séjours dans votre jeunesse en Californie. Vous aviez rencontré pour l'interviewer l'écrivain William Burroughs, un des grands romanciers de la Beat Generation. Et vous aviez oublié, je crois, d'enclencher le magnétophone. Que dit cet acte manqué de cette rencontre ou de votre rapport
avec... Elle dit le ratage très, très drôle de cette rencontre. J'étais extrêmement intimidé, en fait. J'avais eu accès, c'était pas très facile, à William Burroughs par Bernard Heitzig, le poète.
Le poète, oui.
Et je suis arrivé, j'étais très jeune, j'avais 25 ans, j'étais très très impressionné, et impressionné aussi par la timidité en fait de Burroughs, qui littéralement m'a fui dès qu'il m'a vu entrer dans son étrange local. Il habitait dans des vestiaires de YMCA entièrement peints de blanc, plafond, murs, etc., sans fenêtre, et meublé d'un mobilier de bureau des années 50. C'était catastrophique, en fait. J'avais effectivement apporté un magnétophone, plus pour me donner une contenance, d'ailleurs, que pour autre chose, parce que j'étais en train d'écrire un article sur Burroughs pour la revue, le premier numéro de la revue Poésie de Michel Deguy, et j'avais pas besoin, véritablement, de l'interview. Mais significativement, j'ai oublié, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, et la bande était vierge. Mais Burroughs qui ne me disait que des sottises, si j'ose dire, pendant tout l'entretien, parce que ça ne l'intéressait pas, quand j'ai arrêté le magnétophone, a commencé à me parler d'une façon beaucoup plus humaine et moins intimidée lui-même et plus chaleureuse.
Je crois surtout qu'il ne faut pas, faire de théorie sur le dessin, il ne faut surtout pas le réduire, puisque c'est un langage, c'est notre langage, c'est notre premier langage, donc c'est un langage qui nous permet de tout dire.
Merci à nos invités. Frédéric Pajac, l'exposition Les Cahiers dessinés, c'est jusqu'au 14 août à la Halle Saint-Pierre à Paris. Je signale que Manifeste Incertain. Oula ! Manifeste Incertain 3, Prix Médicis, essai 2014, apparu aux éditions Noir et Blanc. Et je rappelle aussi l'apparition du catalogue, c'est le numéro 10 du cahier dessiné, intitulé Exposition. Laurent Génie, le lieu et le moment, c'est aux éditions Verdier. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Vous êtes bien devenu Robert ?
Oui.
Commissaire Julien, nous sommes venus vous interroger et effectuer une perquisition.
Si j'avais su qu'en me lançant dans cette enquête, j'allais me foutre dans une telle merde.
Demain, une émission Presse et Enquête avec Serge Julie et le réalisateur Vincent Garanque. La désannonce, Hippolyte.
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Aïssette Wendoy et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture, Zoé Sfez, Chronique Thomas Claire, à la prise de son Emmanuel Morse-Dincan et Jacques Azubert, et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h53, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.